Nijinsky, Dieu de la danse, par Jules Chancel. Václav Nijinsky naquit le 28 février 1890 à Kiev, la ville aux 400 églises. Ses parents étaient tous deux d'origine polonaise. Son père, Thomas Nijinsky, bel homme, mais d'humeur sombre, emporté, fantasque, exerçait la profession de danseur, chose naturelle car il appartenait à une famille où l'art et la technique de la danse se transmettait de père en fils depuis 4 générations, constituant ainsi une dynastie de danseurs pareille à celle des Vestry ou des Petits Pas. Sa mère, qui était d'une grande beauté, avait pour ancêtre de nobles transylvaniens qui la déshéritèrent et la renièrent quand elle manifesta, elle aussi, son désir de devenir danseuse et d'épouser Thomas Nijinsky. Elle tint bon et se condamna courageusement à la carrière errante de son époux. Les deux artistes n'appartenaient à aucun théâtre et n'avaient par conséquent aucune demeure fixe. Ils allaient d'une ville à l'autre au hasard d'un engagement qui leur permettait de gagner leur vie. À peine âgé de 5 ans, il parut en public dans un pas de trois que son père avait composé pour lui, son frère et sa petite sœur. Thomas s'aperçut vite que Václav était le mieux doué de ses enfants et lui donna ses premières leçons de danse, mais hélas, bientôt ce père sans scrupule se lassa de la vie de famille et disparut un beau jour en abandonnant toute sa nichée. La pauvre mère délaissée dut pourvoir toute seule à son existence et à celle de ses 3 enfants, dont l'un était infirme. Elle dut abandonner la danse, prit à bail un appartement et essaya de louer des chambres. Le seul espoir de cette mère était que son fils bien doué, Václav, pût entrer à l'école impériale de danse. Comme les corps des pages, les élèves faisaient partie de la maison impériale et appartenaient à un monde privilégié. C'était donc vers ce but si lointain que furent dirigés les efforts de cette courageuse famille. Le 20 août 1900, Václav se présenta et fut choisi avec 5 autres parmi 150 garçons. Quelle joie ! Le jour où il reçut son trousseau réglementaire et où il revêtit le coquet uniforme noir brodé de la lyre d'argent et de l'aigle impérial fut un beau jour. Il trouva heureusement comme professeur à l'école un excellent homme, Nikolaï Legal, qui n'était pas seulement un danseur extraordinaire, mais aussi un psychologue averti. Celui-ci sentit tout de suite qu'il avait découvert en Václav un grand artiste d'avenir. L'élève répondit d'ailleurs à cette confiance du maître par un zèle et un dévouement absolu. Les camarades eux-mêmes étaient enthousiasmés dès que Nijinsky commençait à danser, et en 1902, dès que les 2 années préparatoires furent écoulées, le jeune homme fut admis à titre définitif et devint pensionnaire de l'école impériale. À ce titre, il prit part au ballet et opéra du théâtre Mariinsky et s'y fit même remarquer. On conduisait les élèves à la représentation dans les landaux appartenant aux écuries impériales et dans les coulisses, où en réalité, ils n'avaient pas le droit de séjourner. Václav fit la connaissance de son idole, Chaliapine. L'élève épiait chacun des mouvements du grand artiste, étudiait son maquillage et en fit son modèle. À l'intérieur de l'école, où la vie était laborieuse mais fort agréable, Nijinsky passait pour sauvage et peu communicatif. Aussi le jalousait-on quelque peu. Un jour, il commit une espièglerie désastreuse. Il avait tiré avec son arc une flèche qui atteignit un surveillant. Très courageusement, il se dénonça, mais la punition fut sévère. On le suspendit de l'école. Quelle triste époque, et quelle honte pour lui et sa pauvre maman que ce coup acheva d'abattre. Heureusement, au bout de 2 semaines, la mesure disciplinaire fut levée. Václav retourna à l'école et dès lors devint un élève irréprochable. À ce titre, il fit partie des spectacles de la cour et connut le faste des fêtes impériales. Durant ces années, Nijinsky travailla avec acharnement, mais voici qu'un jour où il s'exerçait à des pirouettes, il tomba sur un banc et se blessa gravement à l'abdomen. Durant 3 mois, il resta à l'hôpital entre la vie et la mort. Nouvelles angoisses pour sa pauvre mère, mais enfin il se remit et put reprendre son travail. En mai 1908, Václav, gradué de l'école impériale, devint automatiquement, à 17 ans, membre du théâtre Mariinsky. Or, ce théâtre était le centre artistique de la nation russe. On lui confia les rôles les plus importants aux côtés des grandes étoiles, Kseminkaya, Pavlova et Karsavina. Nullement grisé par cet avancement inouï, le jeune homme trouvait encore le temps de poursuivre son éducation littéraire. Il étudiait Shakespeare, Ibsen, Tchekhov, Tolstoï et fréquentait les musées où son goût se forma au contact de Holbein et de Dürer. Ainsi, il comprit que la beauté et l'harmonie des mouvements devaient intervenir dans ses danses, qui prirent dès lors une sorte de caractère personnel. Il accepta cependant les invitations de certains grands seigneurs qui le firent venir dans leur château, et ainsi commença-t-il à connaître l'existence de luxe qui lui plaisait par son élégance et sa facilité. Malheureusement pour lui, c'est dans ce monde dissolu qu'il fit la connaissance d'un personnage qui joua dans sa vie un rôle si important, à la fois comme artiste et comme ami. Ce personnage, c'était Serge de Diaghilev. Fils d'un général de l'armée russe, membre de la noblesse, certains même prétendaient qu'il descendait des Romanov, Serge de Diaghilev avait encore augmenté la considérable situation morale qu'il possédait en consacrant sa fortune à des entreprises artistiques qui l'amenèrent à Paris, où il fut bientôt aussi connu dans les milieux intellectuels que dans son pays. Il organisait des expositions de peinture internationale, s'intéressait également à la musique et fut même attaché à la direction des théâtres impériaux. Ses réceptions dans son élégant appartement de Saint-Pétersbourg étaient brillantes, et être de ses amis suffisait parfois à lancer un artiste, ainsi que cela se produisit pour le peintre Bakst, qui grâce à lui fut chargé de la décoration des ballets du théâtre de l'Ermitage. Dès qu'il eut fait la connaissance de Nijinsky, cet habile homme de Diaghilev comprit que ce superbe garçon n'était pas seulement un danseur prodigieux, mais qu'il était capable de rénover l'art de la danse. Il attira donc Vaslav le plus qu'il put et le mit en confiance au point que celui-ci, au début de l'hiver de 1900, lui fit la proposition suivante. « Pourquoi, vous qui êtes si répandu à Paris, ne formez-vous pas une troupe avec le ballet du théâtre de Mariinsky et ne l'amenez-vous pas en France, où l'on ne nous connaît pas ?» Cette suggestion séduisit aussitôt Diaghilev qui songea à la réaliser. C'était une grosse entreprise. Il fallait obtenir l'autorisation du tsar, bousculer les traditions de ce théâtre immuable. Mais les difficultés n'étaient pas pour effrayer Diaghilev. Il se savait de force à les surmonter, et très rapidement, grâce à ses relations à la cour, il obtint du tsar le mandat d'emmener le ballet en Europe occidentale. Sa mission devenait presque diplomatique, et déjà il se préparait à l'exécuter de façon grandiose quand il se fâcha avec la toute-puissante danseuse favorite, la Kessinskava, qui en 2 heures lui fit retirer le mandat qui lui avait été confié. Coup terrible pour quiconque, mais pas pour Diaghilev, qui accepta la lutte. Il se mit en relation à Paris avec ses amis, l'impresario Gabriel Astruc, la comtesse Greffel, Bonnie de Castellane, le richissime sœur Basile Zaharoff. Ces personnages considérables louèrent le théâtre du Châtelet et déclarèrent qu'ils garantissaient l'entreprise. À Paris, il transforma le vieux Châtelet délabré, refit le plancher de scène spécialement pour la danse et s'occupa des décors et costumes qui, dans ce spectacle, devaient avoir une telle importance. Le jour de la grande première arriva, et l'on vit rarement à Paris un public de la qualité de celui qui remplissait le Châtelet restauré, dans la soirée du 17 mai 1909. Au programme, le pavillon d'Armide, le festin et le prince Igor. Fokine avait réglé les danses de Nijinsky avec un grand déploiement de virtuosité, et quand le danseur, habillé de façon nouvelle, eut exécuté son premier tour en l'air. Le public, ahuri par cet homme volant qui semblait ne pas toucher terre, l'acclama. Ce fut un succès triomphal. Tout ce que comptait Paris d'artistes ou de gens du monde envahit les coulisses, se ruant vers la loge de Nijinsky. Mais elle était fermée comme un sanctuaire et personne ne put y pénétrer. De même du souper que Diaghilev offrit à ses amis à l'issue de la représentation, le danseur ne parut pas. Le lendemain, cependant, on avait repéré son adresse et son logement fut envahi dès le matin par une armée de journalistes et de photographes qui lui expliquèrent que sa réputation s'étendait déjà dans le monde entier et qu'on l'appelait le dieu de la danse, mais ses adulations ne changeaient rien aux habitudes rigides de Nijinsky qui sortait très peu, uniquement occupé de son spectacle qu'il perfectionnait de plus en plus. Il dansait comme un corps sans poids. Il planait et s'immobilisait réellement dans l'air. Son entrechat fut un véritable miracle, et la façon dont il soulevait sa danseuse d'un seul bras, sans marquer le moindre effort, constituait un tour de force. La saison terminée, Diaghilev emmena aussitôt le triomphateur en Italie, dans le Tyrol, et c'est au cours de ses vacances qu'il rencontra le poète D'Annunzio. Celui-ci assez brutalement lui dit « Nijinsky, dansez-moi donc quelque chose. » « Veuillez vous-même m'écrire quelque chose, » lui répondit du tac au tac le danseur hautain. La nouvelle du succès formidable du ballet à Paris et le triomphe personnel de Nijinsky avaient précédé la troupe à Pétersbourg, où on les accueillit avec enthousiasme. Le grand maréchal de la cour leur transmit les félicitations du tsar, et Diaghilev sortit de cette aventure encore grandi. Aussi se mit-il à préparer allègrement la saison suivante, avec un répertoire nouveau. Scheherazade et l'oiseau de feu dont Stravinsky écrivit la musique et pour lesquels Bakst dut chercher des décorations inédites. La seconde saison dépassa encore la première par son succès. Les personnages les plus notables se disputèrent Nijinsky, mais la palme revint à l'Aga Khan, qui donna 15 000 francs or pour 4 minutes de danse de cette étoile. Nullement grisé par ses triomphes, Václav s'apprêtait à reprendre sa vie coutumière au théâtre Mariinsky, quand un petit événement vint la bouleverser de fond en comble. Dès sa rentrée, il donna sa démission du théâtre impérial, et personne ne comprenait la raison de ce coup de tête quand on apprit qu'il était motivé par le petit fait suivant. Les grandes duchesses s'étaient plaintes que Nijinsky dansait vêtu de costumes trop sommaires et inconvenants. On lui demanda de modifier sa tenue, mais il préféra s'en aller. Bien entendu, l'influence de Diaghilev se trouvait derrière cette décision. L'impresario voulait avoir le danseur pour lui seul. Son projet était en effet de constituer une troupe personnelle et indépendante dont Nijinsky serait l'étoile. Il réussit à réaliser ce tour de force, et alors commença pour ses artistes cette vie errante de Rome à Londres, à Paris, en Espagne et à Monte Carlo, existence pénible, toujours en voyage, toujours de nouveaux théâtres et de nouveaux publics. Loin d'être abattu par ses efforts, Nijinsky songeait alors à ne plus être un simple danseur, mais à devenir un créateur. Depuis longtemps, il avait ses idées personnelles sur la danse, une technique spéciale, et voulut réaliser tout cela dans un ballet. Ce fut l'après-midi d'un faune. La représentation de ce ballet à Paris, le 29 mai 1912, se termina par un véritable scandale. On reproche à Nijinsky son réalisme, sa bestialité même, mais il fut défendu aussi avec vigueur, surtout par le sculpteur Rodin. Il sortit encore grandi de cette bataille artistique qui avait mobilisé peintres, poètes, écrivains, sculpteurs, enfin tout le monde artistique, non seulement de Paris, mais du monde entier. On décida une tournée en Amérique du Sud à laquelle Diaghilev, qui avait peur de la mer, ne prit pas part. Ce fut sur le bateau qui menait la troupe à Rio de Janeiro que Nijinsky, au grand étonnement de tout le monde, annonça son mariage avec une jeune autrichienne de grande famille, Mademoiselle de Pulski, qui s'était toquée de lui et l'avait suivi dans ses tournées. Ce brusque mariage stupéfia tout le monde, même sa future femme, qui ne pouvait croire à son bonheur. Il fut célébré en grande pompe à Buenos Aires et, hélas, dès ce moment, les malheurs ne cessèrent de s'abattre sur le jeune couple. Et puis, survint la guerre qui surprit à Vienne Nijinsky, sa jeune femme et sa petite fille, car il avait une petite fille, Kira, qu'il adorait, et appelait sa petite Camargo. Sujet russe en pays ennemi, le danseur, en dépit de sa réputation mondiale, fut traité en prisonnier. Il évita de justesse le camp de concentration et on l'autorisa à demeurer chez ses beaux-parents sous la surveillance de la police. Vie épouvantable pour Nijinsky, sans cesse en butte aux vexations des autorités et à la rancune des parents de sa femme qui ne l'aimaient pas. Mais en cette occasion, comme dans toutes d'ailleurs, Madame Nijinsky fut admirable. Grâce à ses relations dans la haute société autrichienne et à l'intervention de la comtesse Greffel, elle obtint que son mari pût quitter le territoire autrichien prêté à l'Amérique. Ils partirent donc et, après un voyage fort pénible, arrivèrent à New York. Il arriva ainsi à recueillir péniblement l'argent nécessaire pour retourner dans son pays avec sa femme et sa fille quand arriva la révolution bolchevique qui lui interdisait l'entrée de la Russie. Il se rend donc en Suisse pour s'installer à Saint-Moritz où il était resté à attendre la fin de la guerre. Là, Il menait la vie la plus rangée et la plus sérieuse, s'occupant de sa fillette avec qui il faisait des sports d'hiver, ou bien s'enfermant dans sa chambre où il semblait travailler avec acharnement. Que faisait-il? Il cherchait un procédé qu'il prétendait avoir découvert pour noter la danse comme on note la musique et écrivait ainsi des livres de ballet d'une audace déconcertante. Puis, petit à petit, sa femme désespérée le vit se livrer à des excentricités inquiétantes. Son caractère devenait de plus en plus fantasque. Il s'habillait de façon excentrique et portait sur la poitrine une grosse croix d'or. Il achetait dans les magasins des quantités d'étoffes inutiles. Enfin, il se mit un soir à danser en public des danses incohérentes sur des étoffes représentant des croix qu'il avait lui-même clouées sur le parquet. Sa femme fit venir un médecin qui l'examina sans qu'il élevât la moindre observation, et le verdict fut net autant que désespérant. Nijinsky était atteint de folie incurable, et il fallait l'enfermer aussitôt. 14 ans se sont écoulés depuis que l'esprit du grand danseur créateur a sombré dans l'obscurité et qu'il vit retiré du monde dans un sanatorium de Kreuzlingen. Il reste continuellement plongé dans une réserve sans fin, mais n'a pas cependant perdu la mémoire. Il sait parfaitement qu'il est Nijinsky, il reconnaît sa famille, regardant sa femme quand elle s'approche comme un chien intelligent ferait au maître qui prend soin de lui. Différentes expériences ont été essayées sur lui sans succès. Il resta impassible devant sa mère et sa sœur qui avaient bravé la mort pour venir de Russie lui rendre visite. Par contre, quand on fit danser devant lui un de ses rôles, il rectifia les faux pas de l'interprète. Au profane, il donne l'impression d'un homme silencieux, paisible, indifférent. Pourtant, un jour que son épouse lui présentait sa petite fille Kira, il lui caressa la tête de sa main et murmura « Attention à l'enfant !» Ce furent les dernières paroles raisonnables de celui qui fut le dieu de la danse. Jules Chancel.